l'idée, c'est de vous faire dialoguer les uns avec les autres. Donc,
ce côté marionnette.
Question, en quoi est-ce que la BD peut constituer un format d'exception pour le traitement des questions de genre? Vous avez
20 minutes. On a combien de temps,
oui, c'est là. Ok, alors, ok. Caucus.
Ah, on se met d'accord.
Mais pourquoi pas?
Non, pour commencer, moi je dirais tout simplement que pour moi, la bande dessinée, on a la chance finalement d'être une sorte de genre mineur à la base. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces espèces de poids monstrueux de l'histoire, de la littérature, par exemple, qui handicapent le roman français actuel, à l'heure actuelle, qui est en état de coma dépassé. Et on a la chance d'être dans un médium qui est extrêmement vivant et en perpétuelle révolution. C'est-à-dire qu'il est en train de faire constamment la révolution et de dire « Ah, ça y est, il y a quelque chose de neuf qui arrive. » En ce moment, en plus, il y a le numérique qui est en train de reposer encore d'autres questions. Donc le fait d'être dans un territoire qui se vit encore comme une sorte de terrain d'expérimentation, est déjà quelque chose de très riche. Et cette question du genre est une chose en plus nouvelle, relativement, on va dire, dans ce terrain-là. Donc, du coup, il y a des choses à faire. Et on n'a pas l'impression de refaire le Xème roman français autobiographique sur l'histoire d'un BD. Parce que ça n'a pas été fait. Et ça, c'est génial, en fait, d'être dans un endroit où les choses ne sont pas encore faites, où il reste des choses à faire.
Ouais. Non, au-delà de ça, je pense que c'est une grenade en plastique, en fait. C'est, comme tu dis, c'est un genre mineur. Et ouais. En fait, c'est, je pense que ça peut être facilement subversif, en fait. C'est-à-dire que les gens ne se méfient pas d'une BD. Il y a un côté, c'est pour les enfants, quoi. C'est gentil, c'est tout petit. Et finalement, c'est peut-être une très bonne manière d'arriver avec un truc qui peut vous péter à la gueule, mais qui a l'air, en fait, tout gentil à la base. Donc, peut-être, effectivement, pour ça peut être intéressant aussi.
Je suis assez d'accord avec ça et j'ajouterais qu'à mon avis, s'il y a un intérêt particulier à la BD qui est qu'on choisit totalement la représentation, contrairement à certains autres types de, je sais pas, par exemple le théâtre ou le cinéma, où on doit quand même travailler avec des bases de matière vivante et réelle, quoi. Alors que bon, là, en l'occurrence, en bande dessinée, tout est malléable, tout est flexible, on peut absolument travailler sur tout et n'importe quoi, donc c'est plutôt pas mal. Et la deuxième chose, je pense que, enfin, pour moi, pour le coup, en tant que femme, future auteure, espérons-le, y a vraiment un champ à investir, parce que pour l'instant, je vais pas parler de marché, mais en tout cas, le secteur de la BD féminine, c'est un problème. C'est-à-dire le fait même qu'il puisse exister une BD féminine, c'est un problème, en fait. Et j'attends de pouvoir, lancer de la BD d'aventure... pour laquelle on ne demandera pas, mais alors ça fait quoi d'être une femme qui fait de la bande dessinée? Où on me dira, mais alors votre héros il fait ça, et votre héroïne elle fait ça. Et...
Mais tu vois, par exemple, je pense que tu dois connaître Marion Montaigne, ouais, tu mourras moins bête. On a invité Marion Montaigne à une table ronde sur la bande dessinée féminine à Angoulême. Marion Montaigne fait un blog
aussi,
et des bandes dessinées scientifiques. De vulgarisation, avec un professeur féminin moustachu.
Moi, on m'a invité à un cycle de conférences sur les blogs féminins en Italie.
Ouais,
j'étais
très
contente d'aller en Italie, hein. Mais
moi, j'ai jamais dit l'invitation.
Voilà, écoutez, j'ai rien à dire sur les blogs féminins. On fait quoi, on va bouffer, enfin.
Oui,
ouais.
Et du tricot aussi.
Et du?
Du tricot.
Du tricot.
D'ailleurs, c'est on en parlait, Nini Patalo,
Lisa Mandel,
qui avait organisé à Angoulême une table ronde parodique sur la bande dessinée masculine, où justement elle posait des questions. Alors voilà, là. Comment est-ce que votre masculinité résonne sur cette question précise, nanana. Et donc, il y avait un certain nombre, je crois qu'il y avait Boulet, il y avait Bastien, Vives et d'autres, qui étaient là et qui essayaient de répondre, le plus sérieusement avec beaucoup de guillemets et beaucoup d'ironie, à ces questions effectivement totalement stupides quand elles étaient posées à des hommes, à part qu'on pose les mêmes aux filles, quoi.
Par rapport à d'autres médias populaires comme le cinéma ou l'animation, où c'est fait par énormément de gens qui doivent tous se mettre d'accord, et en plus qui nécessite du coup énormément d'argent et de financement, la BD finalement c'est deux auteurs, même un auteur, c'est un papier du crayon après. Bon, il y a l'édition, tout ça, mais finalement, est-ce que du coup ça donne pas une plus grande liberté d'action, en fait?
Si, complètement, oui. Mmh. Ah bah, c'est pour ça, la BD, c'est magique. Hein. On a une chaîne d'intervenants minimum. Hein. au maximum un scénariste, un dessinateur, un ou une coloriste. Et oui, donc c'est tout court. Et puis effectivement, au niveau de logistique, on peut faire des scènes gigantesques sur une demi-page, on n'a pas besoin de figurants. Enfin, pour ça, effectivement, c'est d'une liberté, d'une aisance totale. Ouais.
Et je dirais même le budget de production d'une bande dessinée, je ne sais pas, ça doit peut-être être une grosse bande dessinée dans une grosse maison d'édition. Hein. C'est peut-être 100 000 euros en comptant tous les frais, machin, etc. Donc, par rapport aux quelques millions d'euros que représente le lancement d'un film, c'est vrai que l'éditeur peut se permettre de lancer des trucs un peu improbables, des fois, et on n'a pas cette espèce de pression à la conformation. Il y a des attentes de public, puisqu'on sait que si on arrive à réunir 20 000 lecteurs, c'est un succès. Alors que pour un film, il faut 1 million de personnes pour que ce soit un succès. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes critères.
Mais je pense aussi qu'il y a dans le sens de ce que tu dis, il y a aussi des développements de circuits gratuits, et notamment les blogs BD, qui en fait sont un moyen d'expression et donc de validation d'un public a priori. C'est-à-dire qu'il y a des blogs BD qui sont adaptés parce qu'ils ont eu du succès. Et si le dit blog tenait un discours un peu subversif, et s'il a du succès quand même, tant mieux, il est adapté. Donc à mon avis, dans ce sens-là, ça permet de faire évoluer les discours.
Ça peut même faire évoluer les autres médias. La BD peut être une base, vu que déjà le dessin animé, c'est souvent des adaptations de bande dessinée. Si la liberté est pas de la bande dessinée, ça peut peut-être faire évoluer le reste. Ouais,
oui, sans doute. Ouais.
Ouais.
Bah, c'est un joli programme, en tout cas, après. Mais oui.
Ce que tu viens de dire, ça m'interpelle, parce que c'est déjà le cas. En fait, les BD, ça sert déjà de source à plein d'autres choses, parce que précisément, c'est un filon qui très... Il y a très peu de gens qui lisent de la BD, alors qu'il y a plein de gens qui vont au cinéma, et du coup, tous les Watchmen, les V pour Vendetta, il y a plein d'exemples de blockbusters qui ont été adaptés en... Enfin, de blockbusters BD à notre échelle, qui ont été adaptés ensuite en film, mais c'est vrai que si ça pouvait se poursuivre de ce point de vue, non seulement au niveau de la complexification scénaristique, mais aussi de la complexification des représentations, ce serait utilisé au programme.
J'ajouterais juste un truc sur l'argent et la liberté, c'est pas seulement une absence d'intervenants et de médiateurs, c'est aussi le fait que ce que nous disait Chris à une précédente table ronde, c'est que pour si tu as envie de dessiner un char, tu dessines, tu as besoin d'un crayon et d'un stylo. Si tu veux en filmer un, il faut l'autorisation de l'armée, il faut faire venir un, il faut avoir le matériel et tout. Donc, toujours, il y a quand même, du point de vue matériel, la liberté d'imagination et de création est beaucoup.
Et pour faire venir un dragon, je t'en parle pas. Hein. Les autorisations et tout.
Ce poids de l'institution et de l'économie existe quand même à un autre niveau. Quand on voit par exemple qu'en Angoulême, au dernier festival, sur pression des autorités japonaises, le gouvernement français a fait interdire la présentation d'ouvrages coréens sur notamment les femmes de guerre. Parce que ça ne plaisait pas aux Japonais, au pas des femmes prostituées obligatoires par l'armée japonaise pendant la dernière guerre. Donc le côté subversif reste malgré tout limité, alors, ça reste du politiquement correct.
Non, alors il ne faut pas confondre la bande dessinée et Angoulême.
Oui, l'institution.
Parce que ce serait considéré que le Cannes et le cinéma, c'est la même chose.
C'est un des engrenages, c'est un des rouages, et comme on en parle depuis un moment.
Par contre, des bandes dessinées sur les femmes de guerre, je pense qu'il y en a eu publiées en France. Il y a des bandes dessinées sur énormément de sujets, pas forcément. Il y a eu des bandes dessinées sur l'affaire Clearstream, il y a eu des bandes dessinées sur beaucoup d'autres choses qui peuvent être dans certains cas des dossiers dérangeants. Il n'y a pas réellement une censure au niveau éditorial. Après, il peut y avoir une censure au niveau de la représentation des médias, c'est certain. Il peut y avoir une censure dans un festival comme Angoulême. Je pense pas que là-dessus, pardon, je suis un petit peu chien dans la gorge, je pense pas que cette censure existe à ce niveau-là. Et je pense que ces dessinés-là, pardon, peuvent être parfaitement diffusés en France. Je prends un bon truc pour la gorge. Camarades, profitez-en. Oui, mais c'était un chantage aux subventions à un festival.
Oui, mais c'était dans le cadre du festival d'Angoulême,
qui est quelque chose de culturel qui existe à coup de subventions.
Oui, mais c'est pour ça que ça a été
une vitrine, mais. La bande dessinée aussi, quand on parlait d'économie, a la chance d'être un secteur qui, justement, n'est pas tellement supporté par des subventions, qui est en prise directe avec des lecteurs. Et si les lecteurs ont envie de lire des... Si un éditeur considère qu'il y a un public sur un livre sur les femmes les femmes de consolation pendant la guerre, le livre sortira. Il y a d'autres sujets tout aussi politiquement dérangeants qui sortent régulièrement. Je n'ai pas forcément d'édite en tête, mais Clearstream, c'était loin à l'époque. sorti il y a quelques années. Ouais, 2004, c'était pas forcément quelque chose par comment il s'appelle
Denis Robert.
Par Denis Robert. Je pense pas que c'était franchement quelque chose qui, dans ce cas-là, si on était un milieu extrêmement censuré, aurait échappé aux mailles de la censure.
Je n'étais pas au courant de l'histoire de cette censure au dernier Angoulême, mais je pense que ça a été la chambre d'écho et de visualisation de la BD proposée à Angoulême qui a été censurée plus que la capacité éditoriale d'une maison de produire ça. Ouais. Bon, ça n'empêche pas que... Oui, oui, non, tout à fait, je ne veux pas défendre...
Et le festival d'Angoulême est extrêmement critiqué par les auteurs eux-mêmes, dans ce qui est mis en avant, dans beaucoup de choses... Hein. Dans son fonctionnement, dans son copinage, dans...
Son refus de primer des auteurs japonais.
Oui, dans sa politique même vis-à-vis des auteurs. Ils ont plusieurs fois tenté de faire payer, par exemple, les auteurs. Il a fallu qu'on les menace de grève de la signature pour qu'ils fassent marche arrière. Enfin, au bout d'un moment, voilà, les rapports entre le festival et les auteurs, et même le monde de l'édition, est loin d'être simple. Parce qu'ils se considèrent comme incontournables. À un moment donné... Je dirais qu'un festival sans les auteurs et sans les maisons d'édition, de toute façon, ne peut pas exister.
Tout à l'heure, vous disiez que vous envisagiez des séries dans lesquelles les héroïnes ne seraient pas des objets sexuels. Mm-hmm. Donc, ma question s'adresse à vous et à Jean-Philippe. Qu'est-ce que vous pensez des séries comme, par exemple, Le Cheval du Dragon ?
Je prends un cachot.
Pas du tout.
Tu veux. Ah, tu en manges ?
Pardon. Soleil. Ah, Soleil, globalement, je dis pas.
Ah.
Merci.
Mais effectivement,
ce qu'on puisse dire, c'est que les dessins blancs ne sont pas spécialement valorisants pour les héroïnes, mais en même temps, c'est une place dans laquelle les femmes prennent.
Enfin, c'est Soleil, quoi.
La première place.
Oui, c'est Soleil.
Je pense que ça dit tout.
C'est l'une des.
Les albums titrés les filles de Soleil, c'est... Ouais, ça sert à rien.
Par rapport à la, c'est la geste des Chevaliers Dragons, c'est ça, effectivement, on est dans un des positions possibles pour une héroïne en tant que premier rôle, à savoir être un mec. Ce sont des guerrières, elles ont des slips en fourrure, elles ont des grosses épées là bien devant elles. Et voilà, et c'est l'une des places qu'on accorde aux héroïnes féminines quand elles se virilisent. Mais ça va aussi bien pour Sillage, Navi, ça va aussi bien pour les héroïnes à la Cameron au cinéma. Si vous prenez Sarah Connor dans Terminator, c'est un mec. Enfin voilà, on a...
Tout à fait. Navi, ouais. Elle est pas, c'est assez différent.
Navi, ça grandit,
c'est un message qui est hyper intéressant, ouais. D'ailleurs, parce qu'elle est mi-sexualisée. Bas, ouais. Enfin, c'est assez spécial, en fait. Mais on continue.
Mais, oui, du coup, oui, c'est des héroïnes, je suis d'accord, mais c'est des héroïnes qui sont soit proposées pour un regard masculin fantasmé, c'est-à-dire elles sont super sexy, etc. On en revient aux positions dont tu parlais tout à l'heure. Il y avait un raccourci que j'ai vu sur un blog d'une Catwoman, je crois. Vous l'avez vu ce matin, ouais. D'accord.
Je l'ai peut-être envoyé.
Tu me l'as envoyé, je sais plus. Mais enfin, voilà, on a une vue sur Catwoman en super plongée avec des seins, des fesses. Et puis, on la décale de trois quarts et ça devient une espèce de petit cube avec juste un talon et une paire de seins. Enfin, du coup, ça marche bien. Mais voilà, donc oui, ça fonctionne. On est dans de la grosse héroïque fantasy, mais effectivement, c'est des positions possibles pour les héroïnes. Il faut qu'elles soient l'objet de fantasmes, il faut qu'elles soient très viriles. Ou alors presque des.
Ou les deux.
Ou les deux.
Lara Croft. Oui, c'est Lara Croft, oui.
Du coup.
Vous parlez de personnages comme Mavis, alors effectivement, est-ce que l'aspect physique suffit pour faire un objet sexuel pour vous ? Parce que physiquement, elle est effectivement un beau type, mais comme vous le soulignez, c'est un personnage très complexe, avec une psychologie qui ne me semble pas être une psychologie masculine.
Non, c'est vrai. C'est un peu vache avec Mavis, ouais.
Des complexes.
Bah pour moi, Navi, ça appartient pas à cette catégorie d'héroïnes. On va les appeler les héroïnes soleil, hein, élégamment, celles dont on voit à la fois les seins et les fesses sur une couverture. Navis pour moi fait pas partie de celle-là, même si alors la nudité par exemple dans Sillage est très très présente, enfin, elle est tout le temps quasiment à poil parce que c'est une sauvageonne à l'origine déjà. Ensuite elle a quand même un corps qui répond pas exactement aux stéréotypes qu'on a l'habitude de trouver, c'est-à-dire qu'elle a des petits seins, elle évolue aussi, son corps évolue puisqu'il est précisé, alors je crois que c'est dans un hors-série qu'elle a eu des phases d'anorexie et des phases de boulimie et on la voit quand elle est obèse et ça c'est quand même assez exceptionnel en bande dessinée globalement. C'est un personnage qui vieillit, on la voit aussi âgée à un moment donné, et en général quand son corps est mis en valeur c'est plutôt au service de scènes qui sont pour le coup délibérément érotisées, voilà. Alors que d'une manière générale, pour moi en fait la limite c'est quand le corps est érotisé alors qu'il n'y a pas besoin, on est en pleine baston, on n'a pas besoin d'avoir des fesses dans la figure, enfin vraiment. Navis, quand elle est en pleine baston, elle se blesse, elle a des pansements, elle a des coups, elle a des traces, et c'est pas sexy en fait.
Et pour aller plus loin, parce que ce serait vraiment parler du travail de Jean-David Morvan, et en revenant sur une série encore plus ancienne qui s'appelle HK, ouais, où effectivement dans la représentation, on est sur des représentations extrêmement stéréotypées, mais à côté de ça, on va avoir une scène d'amour avec une panne d'érection, par exemple, ce qui est loin d'être quelque chose de très courant dans les représentations des scènes de sexe. Une scène semi-homosexuel entre un cyborg et un humain. Enfin voilà, Jean-David justement a un rapport assez intéressant pour un auteur très mainstream sur ce genre de questions.
Oui, il faudra couper ce que j'ai dit, son avis, ça.
Mais d'ailleurs, en fait, je sais pas si on a enregistré parce que le micro il est là-bas.
Non, c'est ça.
C'est... Non, c'est ah, c'est bon ? Ah oui, d'accord. Ça aussi, il faudra couper.
Et des personnages comme par exemple ce bourgeon dans...
dans bah, c'est génial.
On va faire toute la BD ou...
Alors bourgeon c'est compliqué moi je dirais.
Alors moi bourgeon j'ai lu il y a très longtemps.
Déjà c'est daté puisque ça date vraiment des années 80.
Je n'ai pas relu.
Il a fini ses séries récemment.
Oui c'est vrai, ouais. Mais je n'ai pas lu non plus les derniers. Je te dis, j'ai vraiment lu les premiers quand j'étais ado.
Ouais pareil, moi j'ai lu Passager du vent, j'ai lu ça, j'avais 16-17 ans. Donc j'avoue que j'en ai un bon souvenir, c'est une série qui m'a marqué. Mais je vous avoue que là, en reparler,
ouais,
en tout cas dans mes personnages féminins.
Dans mes souvenirs, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est des personnages moteurs qui ont une vie... Enfin, qui existe en tant que personnage et pas uniquement en tant qu'objet sexuel. Après, effectivement, chez Bourgeon, il y a une part érotique et de mise en avant d'arguments vendeurs de sexe et de représentations sexuées très racoleuses par moment, on pourrait dire. Voilà, donc je pense que c'est assez complexe de déterminer, d'en parler, en fait. Et ça, pour moi, ça correspond vraiment à une époque, en plus. D'accord.
Désespérément, et c'est toujours l'image qu'on lui renvoie, c'est tout ce qui circule dans les autres mondes, c'est l'image de sa sexualité.
D'accord, je n'ai pas lu Sienne, donc je ne pourrais pas en parler plus.
Juste sur le bourgeon, sur les passagers du vent, vu que ça se passe au 18e, il y a peut-être aussi cette représentation de la courtisane 18e, il y a peut-être ça qui intervient aussi, j'essaie de
faire le bourgeon. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste.
Un homme habillé en homme, quoi. Mm-hmm. Le premier tome, elle est en homme.
La
chemise,
mais dans l'avant, pendant tout le début, non, pendant la moitié du tome, on ne sait même pas que c'est une femme. Enfin, non, mais juste, c'était.
Et
je
pensais justement, toujours sur cette question de la BD comme format adapté à ce positionnement, il y a toujours, on l'a comme on pourrait l'aborder à l'instant, mais le fait que le dessin permette dans tous les cas de mettre en valeur le corps et donc de mettre en valeur certains brouillages.
Tout à fait, ouais.
Sur le genre justement, est-ce que vous avez des exemples dans vos travaux de réflexion comme ça sur le brouillage des corps en particulier, au-delà donc de l'inversion, tout ce qui est de l'ordre et de ce brouillage.
Qu'est-ce que tu veux dire par brouillage en fait, parce que je...
Par exemple, on a parlé tout à l'heure de Hulkard qui selon moi est justement pas spécialement un personnage féminin mais au contraire cumule féminité et masculinité. Et je trouve que dans la bande dessinée, il y a cet avantage avec l'image et les styles différents aussi des dessinateurs, la variété des styles, de pouvoir justement créer des personnages par androgyne, parce que c'est pas tout à fait le thème, mais si autour de la transidence, est-ce que vous connaissez seulement des héros qui ont une transidentité?
Moi, je dirais que c'est Miss Jo, peut-être
un
des premiers personnages, sans être vraiment. Avec en tout cas un questionnement transgenre, parce qu'après, est-ce que. Vu l'époque, parce qu'un personnage des années 30, est-ce qu'on peut considérer qu'il est dans une transidentité, dans un travestisme, en tout cas, oui, c'est ce personnage dont je parlais tout à l'heure, d'un sosie masculin de Joséphine Baker, magnifique. Et dans tout le tome 1, en fait, nous, c'était très clair quand on le mettait en scène avec Marie et Sébastien. Dès que ce personnage est présenté, elle est présentée comme une spéciale, en sachant que tous les spéciales, c'est toutes les femmes qui font autre chose que la sexualité de base. Donc il y a aussi bien le sadomasochisme dans tout ce que ça comporte comme spectre, que effectivement le travestisme. Et donc elle est présentée vraiment comme Madame Monsieur. Et pour nous c'était très clair. Donc et en fait le personnage est tellement incarné et féminin et parfait en fait, même si elle fait, on va dire par rapport aux autres personnages, 1m80, que on s'est rendu compte à la sortie du Thomas en discutant avec des gens qui n'avaient pas du tout percuté, malgré le poids des mots, que ça puisse être un garçon. Mais du coup ça devenait très intéressant parce que pour eux l'image était tellement forte, voire tellement fantasmatique, qu'ils voyaient, dans toutes les cases, on avait beau leur dire c'est un garçon, ils voyaient une femme. Et donc il a fallu dans le tome 2 qu'on fasse un nu frontal où on voit sa bite, pour dire clairement, pour que les gens disent « Mais ah oui d'accord, c'est vraiment un garçon, il a une bite !» Et voilà, et parce que sinon c'était impossible. Les gens ne voulaient pas voir un garçon dans cette femme magnifique.
Les gens ne t'ont pas demandé pourquoi tu lui avais mis une bite juste sur cette case-là ?
Non, non, parce que c'était amené, hein, c'était amené à un moment donné, voilà. Et il fallait, enfin, c'était important que le lecteur comprenne à ce moment-là, dans l'architecture du scénario, qu'il avait affaire non pas à une femme, mais à un homme.
Moi, je pense aussi à tout ce qui est les tentatives, hein, qui pourraient en être des trucs assez tués, genre bah, tout ce qui n'est pas figuratif ou des créatures. Mm. Mais là, du coup, je fais l'exemple parce que, du coup, je pense à un truc où, du coup, c'est un garçon, genre Mister O, ou enfin, de ton aime, du coup, qui pourrait, du coup, beaucoup être neutre, ou alors. On fait des trucs neutres, des créatures neutres, jusqu'à faire une femme parmi les trucs neutres. Genre Gremlins pour un film, dans le 2, il y a les Gremlins à la limite qui sont neutres, et il y a une Gremlins femme qui est du coup dégueulasse, enfin mille fois trop femme. On parlait des Schtroumpfs, là, du coup, ils pourraient être neutres, et on met la chute en fait. Ouais, j'essaie de trouver un truc, peut-être dans le non-figuratif ou dans mais ça marche pas.
Non, il y avait Ranma 1,5, moi, que j'ai pas mal lu quand j'étais ado, que j'aimais bien. Donc, c'est un manga où il y a un personnage qui tombe dans une source maudite, si je me rappelle bien. Et du coup, c'est un garçon. Et quand il est tombé dans cette source maudite, c'est un endroit en Chine où il y a plein de sources maudites. Et là, il y a une jeune femme qui était venue mourir dans cette source. Et quand on s'y trempe, on ressort transformé en femme. Donc, du coup, quand il est arrosé d'eau froide, il devient un garçon. Je crois que quand il est arrosé d'eau chaude, il devient une fille. D'accord. Et donc, je me rappelle déjà de la source maudite en Chine. Donc. Il y avait cet effet-là. Mais après, du souvenir que j'en ai, ça joue sur le code garçon-fille, mais ça ne va pas beaucoup plus loin, je crois, dans l'interrogation de ce que ça pourrait amener sur sa sexualité, sur ses questionnements. Je ne suis pas souvenir de ça, en tout cas. Mais...
Il y a également dans un comics américain récent qui s'appelle Kellogg's, je ne sais pas si vous en entendez parler, je ne sais plus qui c'est, Eisner Award à fond, et où il y a, en fait, c'est des principes de clé, c'est une sorte de truc fantastique un peu à la Lovecraft. Et donc, il y a des clés qui permettent de jouer sur la réalité, qui sont cachées. Et il y a notamment une clé qui permet aux gens de changer de sexe. Et il y a donc un personnage qu'on découvre comme étant une jeune fille, au début, qui est un ancien garçon, qui après va redevenir un garçon. Et c'est assez intéressant. Et qui est la grande méchante qui fait peur, forcément. Mais le personnage est trouble, même sexuellement chargé, d'un point de vue de l'image, de ce qu'il dégage, de ce qu'il dit. Et reste un personnage ambigu entre les genres pendant toute l'histoire, en fait.
Moi, je pense que...
Un poids aussi, tout simplement, le personnage de...
Oui, alors après, il est de sexe féminin. Par exemple, les accords grammaticaux se font au féminin pour parler d'elle. Après, il est physiquement non marqué, plutôt qu'androgyne.
Look and key.
Mais en fait, ce que je me disais, j'ai pas de personnage en tête, en fait, qui soit vraiment androgyne. J'avais deux réflexions qui me venaient. La première, c'est que le manga est beaucoup plus à l'aise que la bande dessinée occidentale avec l'androgynie et globalement avec le trouble, mais également avec le travestissement. Alors, il faudra quelqu'un qui a plus ou moins la série et me rectifie, mais je crois qu'il y a plusieurs personnages de travestis dans One Piece. Il y a plusieurs hommes, notamment dans les méchants, qui sont toujours très hauts en couleur et très intéressants, les méchants de One Piece, qui se travestit et qui le fait de manière... on sent que même, malgré le fait que ce soit juste un méchant et qu'il soit là pour être affronté, en fait, il a un vrai questionnement, il y a une vraie souffrance derrière son trouble identitaire parce qu'il ne sait pas vraiment, il a du mal à se faire accepter, etc.
C'est les méchants.
Et donc, il me semble que c'est un peu plus neutre de ce côté-là. Et il y a un autre aspect auquel je pensais en termes de transidentité. Là, on touche plus en fait au style des auteurs. Puisqu'il y a des styles qui sont réputés féminins et des styles qui sont réputés masculins. Je parlais tout à l'heure des styles féminins, de mettre des courbes, des bouclettes, des grands déliés, tout ça. Et en fait, par exemple, on associe du coup les personnages féminins à un trait qui serait doux, qui serait souple, plus à l'aquarelle qu'à l'acrylique, plus
c'est
à...
C'est le Genki Pakilox.
D'accord. Et donc, je trouve aussi intéressant les auteurs qui, avec un trait particulièrement marqué d'un côté, cherchent à représenter des canons genrés qui sont pas ceux associés à leur trait. Voilà.
Mais je pensais aussi surtout à ce que tu avais dit tout à l'heure, par exemple, le fait qu'au niveau du personnage féminin tout de même si on essaye de gommer certains traits habituels et une esthétique peut-être qu'on pourrait qualifier féminine. Ouais. Mais tu disais dans le roman qu'elle appartenait quand même à une classe, c'est-à-dire celle des dominés.
Alors.
Et ouais. Du fait que ce soit un personnage humoristique, donc il y a aussi cet aspect-là. Dans l'humour, on a un point de vue du dominé parce que c'est un point de vue qui est un petit peu en marge. Du coup, au final, la transidentité, ou plutôt les questions de genre, elles se retrouvent dans l'évocation des dominations de
en
ce personnage qui est tout de même un peu féminin.
Alors, en fait, je me suis peut-être un petit peu exprimée rapidement tout à l'heure. C'est spécifique à mon travail pour Cosette, en fait, cette incarnation des dominés, parce que, en l'occurrence, mon travail pour Cosette, c'est du dessin satirique sur des sujets précis qui traitent du sexisme, à chaque fois. C'est une micro-actualité du sexisme, et donc, une micro-actualité ou pas, d'ailleurs, il y a des choses aussi assez importantes dans les brèves que j'illustre. Mais, en l'occurrence, quand moi, j'ai à mettre en scène plusieurs personnages, je souhaite toujours que Oni, quand elle est représentée, soit plutôt du côté des dominés. Je la représente très rarement en gros patron, ou alors il y a une grosse dérision derrière, voilà. Et j'utilise sans aucun problème les stéréotypes visuels de ça, c'est-à-dire que mes patrons, c'est toujours des gros bonshommes avec un cigare, vraiment. Enfin, c'est le bon vieux patron du XXe siècle, quoi. Sur mon blog, en fait, c'est assez différent. Elle est moins marquée du côté des dominés, notamment parce que c'est souvent elle qui exerce l'humour. Et je parlerai plutôt en fait d'un goût pour l'autodérision. Il y a aussi le fait que j'aime bien la ridiculiser parce que j'aime bien me ridiculiser. Et pour moi, c'est un ressort humoristique qui est vraiment super puissant. Voilà.
Et je me souviens, il y a deux séries qui m'ont vachement marqué. Il y en a une où c'est des jumeaux, enfin il y a une fille et un garçon qui ont 13 ans et la fille est prise dans une école de filles. Non, elle est prise dans une école avec internat, mais il n'y a plus de place dans l'internat garçon. Du coup, son frère va se travestir en fille pendant super longtemps pour pouvoir être avec elle parce qu'il l'aime. Et en fait, c'est quand même très puritain, ça pose pas trop de questions sur la sexualité ou ces choses-là, après lui tombe amoureux d'une fille, etc. Mais je sais que moi, ça m'a vachement marqué, alors que ouais, j'avais 12-13 ans, déjà sur les comportements fille-garçon, parce que dedans, ça met en valeur le fait que c'est un garçon et que du coup, il a une jupe, mais que ça surprend tout le monde que par exemple, il soit assis avec les jambes écartées ou des choses comme ça. Et même si c'est très puritain, en fait, ça pose des questions qui sont intéressantes. Il y en avait un autre aussi où c'était une fille très très féminine, abusément féminine. En débardeur et mini-jupe, même en hiver, etc., mais qui se battait contre les méchants et qui, à la fin, faisait flic. Et du coup, pareil, ça m'a vachement marqué. En quatrième, j'avais trop envie de me battre, quoi. Alors que, à la base, c'était... Enfin, elle était tout le temps habillée en léopard, avec des trucs hyper stéréotypés et dégueux. Mais n'empêche, ça va se dire de temps en temps.
Mais ce que tu dis sur les attitudes et tout ça, pour le coup, par rapport à la question de tout à l'heure sur la manière dont moi, par exemple, je choisis de représenter le corps féminin, et ben ça, c'est, pour moi, c'est un des éléments, un des axes de transgression principaux, c'est que je veux que les femmes que je dessine puissent se tenir comme ça, puissent se gratter les fesses, se gratter l'entrejambe, se réveillent le matin complètement décoiffées avec la tronche empâtée. C'est des choses auxquelles je fais attention dans ce que je dessine, quoi.
Ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, tu veux juste dessiner la vie, en fait.
Ouais, je dessine moi, quoi. Pas vraiment, mais je veux dire, moi, voilà, j'ai une attitude corporelle, on me le fait tout le temps remarquer, je me tiens mal. Ouais, merci. Je vois que toi, t'as les jambes sagement croisées devant toi. Non, mais c'est des choses. C'est des choses, voilà, le côté de marcher comme un cow-boy, le côté de porter toujours des pompes qui font plus de 800 grammes chacune.
Ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que qui est très propre au dessin de bande dessinée, c'est que le dessin de bande dessinée repose sur une extrême stylisation. Et on se rend compte que certains dessinateurs, beaucoup de dessinateurs, ont en fait une capacité de stylisation, finalement, quand on analyse, très vaste sur les types d'hommes.
Ouais.
Ils vont avoir 50 types d'hommes différents. Mmh. Et ils vont avoir 2-3 types de féminins, la moche, la jolie, la vieille. Voilà. Et ça va être à peu près ça. Et du coup, forcément, ça crée quelque chose de très réducteur. Et moi, je sais que ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai commencé à bosser avec Marie-Kéra Squet, c'est que tout d'un coup, Marie, elle me faisait 50 femmes différentes, qui pouvaient être toutes extrêmement jolies, charmantes ou pas d'ailleurs, avec des grosses, des maigres, des petits seins, gros seins. Et on s'en foutait, elles étaient vivantes, juste. Et j'ai rarement rencontré des dessinateurs masculins capables de représenter autant de genres de femmes différents et qui est ce sentiment de vie, en fait, finalement.
Est-ce que tu as rencontré des auteurs féminines qui étaient aussi, à l'inverse, qui avaient un spectre masculin de représentation
plus
masculin,
plus réduit. Bah Marie, elle a plus de mal à dessiner les mecs, enfin, justement. Et très souvent, les mecs, c'est Sébastien qui les dessine.
D'accord.
Ils ont résolu le problème.
Voilà, ils sont deux.
Je voulais juste rajouter un truc. Tout à l'heure, on parlait d'ouvrages qui avaient questionné la question des transgenres et tout ça. On parlait de Marc. Il y a un équivalent qui est vachement fort et injustement méconnu dans les comics des années 90 qui s'appelle Shade. Et Shade, en fait, c'est un personnage qui est... Donc c'est chez The Changing Man, donc il peut incarner plusieurs apparences, donc il meurt, puis il revient, et une fois il revient sous forme de femme. Il se réincarne et son corps c'est une femme. Donc ça pose quelques problèmes parce qu'il est déjà plus ou moins en trouble avec deux autres filles, il y a une lesbienne, puis l'autre s'est laissé convaincre, et du coup... Donc ça fait un espèce de triangle amoureux de l'enfer là, et il y a vraiment les questionnements, il est vraiment... Les auteurs ont vraiment cherché, qui sont tous les deux des hommes, hein, ont vraiment cherché à se poser la question de qu'est-ce qui se passerait si un homme se retrouvait soudainement dans un corps de femme, et quelles questions. Et ils n'ont pas éludé. Contrairement à Randma, on se dit toujours, mais quand même, qu'est-ce qu'il pense, comment il le vit, qu'est-ce qui se passe, on aimerait vachement savoir, et on ne sait jamais. Et dans Shade, justement, c'est exploré. Et c'est vers le milieu de la série, donc on cherche un peu, mais c'est fort de ce point de vue-là, et au niveau de ces questionnements-là. Donc, si vous avez la question,
il y avait la même chose avec Lois Lane qui devient noire. On avait parlé, je ne sais plus avec qui, mais Lois Lane devient noire, et c'est la même chose, c'est un peu genre. Bêtement, mais le rapport à la communauté noire, du coup, ça change complètement parce qu'elle se rend compte ce que c'est que d'être discriminée pour le coup, de subir.
Alors j'ai un autre exemple, plutôt dans le genre du tien, puisqu'il y a moins de portée sociale et tout ça, parce que je me demandais si ce genre de choses arrive seulement dans la BD adulte ou pas. Et j'ai pensé, alors la référence, vous m'excuserez, à un épisode de Pokémon, dans lequel le jeune héros, donc les héros de Pokémon, ont en moyenne une dizaine d'années. Oui, mais attention, attention à ce que tu vas entendre. Un épisode de Pokémon dans lequel le jeune héros commence à se lier d'amitié avec un jeune personnage, qui est une jeune fille muette, dont on comprend finalement qu'elle est en réalité un Pokémon capable de se transformer en humain, mais donc pas de parler. Et ce Pokémon peut se transformer alternativement en humain mâle ou femelle. Et donc finalement, il y a une relation, il y a une espèce de romance qui se noue entre les deux, une relation un peu amoureuse et tout ça, elle finit par l'embrasser sous la forme d'une femme, alors qu'il est plus ou moins entendu que le Pokémon est un mâle. Donc on a une espèce de trouble comme ça. Bon, ça vous laisse un peu, mais moi, ça m'interpelle.
Attrapez-les tous.
Toutes.
Toutes.
Du coup, bêtement, c'est quoi votre rapport justement à la BD pornographique?
Ah, très bien.
C'est une question justement très très intéressante. Je suis en train d'essayer, alors ça c'est mon plus vieux projet, on va dire, puisque j'ai commencé à l'écrire il y a maintenant plus de 20 ans, et que le problème que j'avais à l'époque, c'était que j'ai toujours voulu le faire avec un dessinateur BD, et que pour en trouver un à l'époque, il m'a fallu soulever beaucoup de pierres, parce qu'il n'y en avait pas, à part Fabrice No, enfin voilà, on se comptait sur les doigts de la main. Et donc là, maintenant, je commence à envisager la possibilité de le faire, parce qu'il y a toute une jeune génération qui arrive, et il y en a qui sont très très bons en tant que dessinateurs. Voilà, et donc c'est effectivement pour moi faire c'est un polar pornographique homosexuel, c'est comme ça que je l'ai toujours décrit à mes futurs éditeurs, qui étrangement sont intéressés. parfois ils sont tellement perdus qu'ils se disent on sait jamais, peut-être que sur un hasard ça va marcher.
Bon,
ça n'a jamais été fait, donc.
Ouais.
Bon. Et voilà, donc moi c'est vrai que c'est une question, là, cette représentation de la sexualité masculine, pour le coup, m'intéresse vraiment, puisque je pense que la bande dessinée peut aller très loin et peut le faire, qu'il y a vraiment toute une interrogation autour justement de la représentation, et enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et ça a été fait de façon magnifique, notamment Ripple, sur l'hétérosexualité, Ripple de... auteur canadien, c'est pas Dave Cooper ?
Peut-être. Je ne sais pas, moi, pas du coup. Ouais.
Qui a raconté l'histoire d'un d'un artiste en fait qui décide en fait de dessiner des femmes moches. Donc fait un casting. Enfin, il envoie une petite annonce et il y a une femme très moche qui vient le voir, et à force de le dessiner, finalement, il tombe dans une fascination totale et il est finalement sous sa coupe. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, l'intérêt d'une histoire pornographique littéraire, c'est ce qui se passe dans la tête finalement. Et donc, ce qu'il raconte, c'est l'histoire d'une obsession. Une obsession de la chair, une obsession voilà, d'un corps. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Ça a toujours été. Les obsessions ont toujours fait partie fondamentale de mon travail, étant quelqu'un de très obsessif, on va dire. Et du coup, oui, voilà, c'est une histoire que j'ai envie de raconter depuis longtemps.
Tu veux y aller ou...
Je sais pas.
Moi, je pense. Moi, la pornographie, c'est aussi un sujet qui m'intéresse énormément parce que, évidemment, citez-moi une auteure de bande dessinée pornographique. Voilà. Donc, il y a.
En fait, Similine. Similine.
Alors. Attends, ouais, ah, ouais.
Scénarisé
ouais,
des BD.
Oui, non, oui, non. Un peu
Similine, première fois.
Ouais. Ok, je l'ai pas lu. Mais... T'as gagné. Fraise et chocolat. Exactement. Et c'est Aurélia Horita. Et ça parle de son compagnon qui est un dessinateur beaucoup plus connu qu'elle, qui est Frédéric Boilet. Donc on a quand même un petit. Je ne nie pas les qualités de Fraise et chocolat, mais on n'est pas dans la. On n'est pas dans la grande BD pornographique. Et c'est plutôt Mignonnet qu'autre chose.
C'est celle qui a représenté, qui a travaillé avec. On en parlait. Elle est aux États-Unis. Elle a représenté. Alice au pays des merveilles.
La femme de l'amour. Ah, je la connais.
Avec Alan Moore.
En gros, elle a représenté Alice au pays des merveilles, la petite du magicien d'Oz, mais elles ont grandi,
Non mais moi ce qui m'intéresse là-dedans, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée pornographique, c'est vraiment un projet de vie. Je pense que je changerai de pseudonyme à ce moment-là pour me faire appeler Morpine.
ça, c'est cohérent.
C'est cohérent, et donc, enfin bon, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire, mais d'une certaine façon. Donc, la plupart des projets qui sont dans mes tiroirs sont érotiques, et je suis par contre tiraillée entre l'idée de me dire, est-ce que si je fais de la pornographie qui joue beaucoup sur le visuel, qui est très axée image, enfin des choses comme ça, qui est très, enfin pour faire un mauvais jeu de mots, qui est très léché, quoi. Est-ce que ce sera de la pornographie typiquement féminine ? Ça veut dire, est-ce que je ferai de l'érotisme caché, du crypto-érotisme, parce que en tant que femme, je ne peux pas faire de la pornographie ? Et j'hésite entre ça et en fait, dans mes carnets, je fais aussi de la pornographie à papa, quoi. Enfin, je fais du bon vieux. Enfin bon.
Et du coup, est-ce que tu conserveras ce dont tu parlais dans la représentation des corps, ces corps par exemple
Alors ça, cet aspect-là, oui, mais alors du coup, je pense, enfin, après, t'as plusieurs types de pornographie. Moi, si je fais les choses qui me font plaisir, ça va être des trucs un peu trashos, et je suis pas, enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je vais pas le formuler comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que, j'aime beaucoup, par exemple, dessiner des chairs très malléables, mais ça peut aller jusqu'à... ça peut aller jusqu'à malléable graphiquement et plus du tout possible, on peut plus du tout se projeter sur ce type de graphisme, on peut plus en fait en faire l'usage qui est l'usage original de la pornographie en bande dessinée qui est voilà, celui qu'on sait, le lire d'une main.
Et après ça dépend de l'ambition.
Bah ouais, c'est ça, mais moi par contre ça me ferait kiffer à mort de dessiner des espèces de chair qui... Oui, c'est vrai qu'il y a un public. Il y a un public. Voilà.
Est-ce que tu te sens... responsable du discours que tu vas tenir, je veux dire, est-ce que tu te sens obligé de faire attention et surtout ne pas reproduire les codes, est-ce que tu t'auto-censures parce que tu ne peux pas faire du masculin?
Alors c'est une question vraiment délicate et que je me pose sincèrement beaucoup, parce que bon, évidemment dans mon travail de presse c'est quelque chose à quoi je fais très attention, parce que Cosette se débrouille suffisamment bien pour gaffer toute seule sans que j'ai besoin d'en rajouter dans mes dessins. Sur mon blog, c'est quelque chose que je fais spontanément, et j'estime que quand je déroge à ces codes-là, personne n'a de leçon à me donner parce que je sais ce que je fais. Et à partir du moment où... Enfin, franchement, des fois, il y a des blagues sexistes qui me font rire et c'est comme ça, quoi. C'est tout. Ça me fait rire et des fois, je fais des blagues misogynes. C'est rare, mais ça m'arrive. Comme je fais des blagues sur plein d'autres choses. Après, sur ce type de représentation, si je regarde mes propres carnets érotiques, enfin, il y a une bonne raison pour laquelle ils sortent pas. C'est que, bon, bah, y a des choses avec lesquelles, finalement, je suis pas théoriquement en accord, mais qui sont là parce qu'elles sont chouettes à dessiner, quoi. Il y a donc des trucs avec des tentacules. Par exemple, je trouve que Druna, enfin, c'est quand même une des pires séries au niveau de la représentation des femmes, de la contrainte, de la culture du viol. Enfin, c'est vraiment un des trucs qu'il y a de pire. Mais qu'est-ce que c'est bien dessiné, Druna ? Enfin, c'est quand même hyper beau, quoi.
Ouais, mais moi, je dirais que du moment que tu es sincère avec toi-même, avec ce que tu es, je ne vois pas comment tu pourrais ne pas être juste au final. Même si tu passes par des moments de flottement dans l'histoire, mais c'est ça qui est intéressant.
Ouais, ouais.
Mais à un moment donné, il faut savoir se mettre en danger.
Comme disait
Hitchcock, si tu veux passer un message, utilise la poste.
Oui, mais bien sûr, mais c'est pas une question. Pour moi, c'est pas une question éditoriale. C'est pas une question de dire si ça se trouve, ça va pas marcher si je fais ça, ou alors mes amis féministes vont me critiquer.
Si ça te fait vibrer, c'est pour une bonne raison. Donc trouve la raison.
Bah oui, mais j'ai du mal à trouver cette raison. C'est ça la question. C'est peut-être aussi ce qu'on disait tout à l'heure avec la personne qui n'est plus là, qui a posé la question. Peut-être aussi que je suis très très marquée par des représentations culturelles que j'ai acquises et tu vois.
Mais justement, c'est ça aussi.
Peut-être que j'aime bien dessiner des tentacules et des nanas parce que j'ai l'habitude de voir des pornos avec des tentacules et des nanas, c'est tout.
Peut-être, mais après, ce que tu en feras vu ce que tu es sera forcément différent de ce qu'on aurait fait un mec au premier degré. C'est ça que je veux dire.
Ouais.
Qu'il faut, à un moment donné, faut se dire que très souvent, ce qu'on dit, on le dit malgré nous. C'est des choses.
C'est vrai que t'as ce petit côté psychanalyste.
Oui, c'est vrai.
On va en discuter après. Hein, après, je m'allonge ici et on en parle, ouais. Ok.
Moi, je sais que mes premières histoires que j'ai écrites, j'écris souvent d'une façon quasiment en écriture automatique mes projets.
Ouais.
Et les premières histoires que j'ai écrites il y a déjà longtemps, je les ai écrites en pensant écrire des contes un peu faciles, genre un peu contes d'horreur, creepy, machin, etc. Et les gens qui le disaient, c'est super bizarre ce que t'écris. Je me suis dit, ah bon? Je m'en rends pas compte, en fait. Mais j'écrivais... Et c'est petit à petit que je me suis rendu compte de la spécificité que j'écrivais, alors que je pensais juste faire du sous Lovecraft ou des trucs comme ça.
D'accord.
Et voilà, et souvent, quand on écrit sincèrement vis-à-vis de soi-même et sans autocensure, il y a des trucs qui sortent par en dessous, en fait. Et les gens vont lire le machin et vont faire « Oh là là, t'es vraiment bizarre, toi !» Voilà, et au début, ça gêne un peu, puis après, tu fais « C'est pas grave. »
Bah écoute, je te communiquerai mes carnets secrets.
Bah ouais.
Non, mais tu seras mon premier lecteur si j'ai un projet de ce type-là.
Tout comme, enfin, moi, le projet pornographique que je dis, j'aurais des raisons de me censurer, de dire « Oh, mais ça va donner une super mauvaise image de la communauté homosexuelle !» Je dis « Mais... » Voilà, si on s'arrête là, après, on ne fait plus rien. Quoi.
Non, mais c'est ça aussi. Il y a aussi un moment... moi, j'ai beaucoup de mal à me situer entre la volonté de ne pas blesser les catégories, on va dire, qu'on appelait dominées depuis tout à l'heure, et celle de faire des bonnes blagues, parce que quand même, il y a des blagues sur les femmes qui sont drôles, il y a des blagues sur les homos qui sont drôles, et il y a des blagues sur les juifs qui sont drôles, et qui sont en général celles des juifs.
Oui.
Donc, enfin, voilà. Étant une femme, je pense que je peux me permettre de faire de l'humour sur les femmes. Mais il n'y a pas que l'humour, il y a aussi, à partir du moment où j'essaie de ne heurter aucune sensibilité, je vais finir par faire de la BD consensuelle, et ça, je ne le veux pas. Mais c'est vraiment de plus en plus difficile, c'est notamment à travers les problèmes de Cosette, c'est un truc auquel je suis confrontée vraiment très 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 souvent. Alors c'est assez marrant d'ailleurs, j'ai juste une anecdote à propos de ça, parce que bon, dans Cosette, vous l'avez vu tout à l'heure, en général, je ne ménage ni la chèvre ni le chou, et donc j'y vais très très fort, et ça passe par des représentations qui peuvent être violentes. Et alors, j'ai eu plusieurs types de retours négatifs sur ce que je faisais, que c'était sexiste, évidemment, que c'était raciste. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'arrête pas de faire des vannes sur les pédophiles. Et alors ça, tout le monde s'en fout. Voilà, sur le fait de tuer des enfants, sur le fait de violer des enfants, mais tout le monde s'en fout. Voilà, je voulais juste le dire.
Mais tu vois, moi, je trouve ça, au contraire, quand tu parlais de point de vue féminin sur la sexualité, je trouve ça... hyper intéressant qu'une femme puisse être excitée et s'interroger sur ces images entre guillemets dégradantes et de dire mais pourquoi est-ce que ça m'excite au fond, quelle est la part de moi-même, quelle est la part des schémas culturels qui m'ont été inculqués, quelle est la part de transgression vis-à-vis des gens qui à l'extérieur me connaissent ou de l'image qu'ils peuvent avoir de moi, etc. Et c'est ça qui est intéressant dans la pornographie, justement, c'est en quoi aussi elle questionne l'identité de ce qu'on est.
Ouais, non, mais ça, c'est un truc qui me passionne absolument. J'aimerais beaucoup avoir l'occasion à la fois de plus y réfléchir et de le mettre en pratique. Mmh. Et on va dire aussi que les éléments de censure qui me retiennent sont plutôt... En fait, quand je pense aux réactions d'un public, je pense à ma grand-mère en premier et à mes élèves en deuxième.
Oui, je sais.
Voilà, c'est...
Mais tu vois, moi, ayant sorti un bouquin sur l'anorexie boulimie, en disant en plus que c'est des éléments plus ou moins autobiographiques, je pense que j'ai atteint le stade ultime maintenant. Je dis, mmh.
Oui, mais t'as pas une classe entière devant toi avec des élèves qui ont lu ta BD porno.
C'est sûr.
Non, pourquoi ouais. Non, mais oui, l'un des avantages de la représentation BD, c'est que justement, on peut aller très très loin dans le porno par rapport à ça. On n'est pas en train de faire jouer des gens avec leur corps, quoi. On est pas
à part qu'il y a une loi maintenant.
Ah.
Ouais. Ah bon ? Ah oui, celle sur le fait de représenter des
sur la représentation pédophilique en dessin, même à titre privé, est condamnée désormais par la loi.
Ah oui, j'ai vu passer effectivement ça.
Exactement. Ouais, ce qui est ahurissant.
Ce qui fait de moi une criminelle.
Ouais,
ce qui fait de
toi une criminelle.
Tais-toi.
C'est une des lois les plus incroyables, c'est-à-dire même ça, un dessin fou, privé ouais. sur un bloc-notes si constitue un délit. Passible alors, d'un truc assez grave en plus. Hein, je crois que
c'est un truc absolument incroyable.
De l'emprisonnement, enfin c'est.
D'accord.
Ah, non, j'aimerais bien savoir si le degré de réussite technique.
Enfantin, c'est con, mais quand on regarde des mangas, ouais. c'est souvent limite. Ouais. Hein,
tout à fait, ouais.
Mais eux, ils ont déjà. Ouais.
Eux, ils n'ont pas cette loi-là. Non, ils sont dans la production. Non, alors que par contre, il me semble qu'avec des cadavres, des animaux, des tentacules, des mutants, ouais. tout ça, ça va.
Mais pas des cadavres, des tentacules d'enfants.
Non, pas des tentacules d'enfants.
Je reste sur les ok. Très bien. Non, mais oui, donc en dehors donc, des enfants, graphiquement, on peut se permettre énormément de choses, puisque par rapport au porno réel, on n'est pas en train effectivement de demander à des gens de jouer avec des corps, donc ça permet une certaine liberté. Moi, j'ai découvert Morbus Gravis, Druna, beaucoup trop tôt, dans la bibliothèque de mon père. Je crois que ça m'a un peu freiné par rapport à pas mal de trucs. Et au-delà de ça, sinon, en termes de scénario, c'est compliqué, je trouve, de raconter une histoire porno. C'est-à-dire, le principe d'une histoire, c'est de reposer sur des conflits. Le principe d'un scénario, c'est qu'il y a des conflits. Et dans le porno, essentiellement, tout le monde est toujours très d'accord, très rapidement. C'est-à-dire qu'on va retrouver, avec malgré tout les difficultés, à faire
sauf
avancer.
Sauf les femmes ne sont pas toujours d'accord, donc il y a quelquefois un conflit. C'est peut-être ça, le truc excitant.
On peut, non, mais il y a des moyens de faire. Hein. Mais...
Non, voilà, mais tu vois, il y a l'empire des sens, évidemment, qui est le ouais. grand, tu vois, le truc, espèce d'obsession absolue. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le porno, en fait. C'est la jonction entre le corps et l'esprit, la jonction entre l'obsession, le... Enfin, voilà, c'est ce moment où ça part un peu en couille, on va dire.
Ouais. Du coup. Mais je sais pas, moi, je sais que j'ai essayé d'écrire des textes excitants et que je me suis trouvé assez pitoyable dans cet exercice. Non, mais c'était à une époque, j'avais vraiment envie d'essayer ça, quoi, et... J'ai pas réussi à m'auto-convaincre, ni les quelques lecteurs, lectrices que j'ai fait lire. Donc bon, c'est dans un coin de disque dur, on verra ce que ça donne. Après, je me rappelle une anecdote, quand j'ai commencé la BD, c'était dans un atelier dans mon lycée, j'avais 16 ans, et on avait des dessinateurs. Et je me rappelle d'un dessinateur qui me racontait qu'il s'excitait justement en dessinant des corps de femmes, et je trouvais ça fabuleux en fait. Je trouvais qu'il y avait un truc, donc moi j'ai jamais dessiné, je ne sais absolument pas dessiner, mais voilà, j'ai trouvé que c'est une espèce de pouvoir du coup assez, assez étonnant du coup. Quoi.
Ouais.
C'est assez cool. Ouais.
Et le nombre de jeunes dessinateurs qui, quand ils étaient ados, sont devenus des stars de la cour de récréation, le jour où leurs camarades se sont rendus compte qu'ils étaient capables de dessiner quasiment n'importe quelle fille à poil. Ouais. Et ça a été vraiment... Ça leur a sauvé leur adolescence. Hein.
J'ai une expérience terrible comme ça. C'était la seule fois où mes parents m'ont mise en colonie de vacances, qui était un moment de souffrance terrible pour moi, parce que j'étais pas du tout à ma place là-dedans. Je voulais lire dans mon coin et pas parler aux autres enfants. Enfin, voilà. Et par contre, à un moment, ils se sont rendus compte que je savais dessiner. Et alors, évidemment, tout de suite, ils m'ont dit « Est-ce que tu peux nous dessiner une pin-up voilà. ?» Et donc, je me suis exécutée en me disant « Cool, je vais me faire des amis ». Donc, j'ai dessiné une belle pin-up, vraiment bien faite, etc. Typiquement, on voyait à la fois les fesses et les seins. Enfin, vraiment tout, quoi. J'ai tout fait. Et donc, ils l'ont prise en me remerciant. Je me suis dit « Ça y est, je vais avoir une vie sociale ». Et en fait, j'ai vu qu'ils allaient chercher des ciseaux. Et ensuite, ils se sont attroupés. J'ai pas trop compris. Et en fait, quand l'attroupement est parti et s'est dispersé, je suis revenue. Et il y avait en fait des petits bouts de papier par terre que j'ai reconstitués. Et donc c'était ma pin-up en petits morceaux avec juste en moins les seins et les fesses. Ils avaient gardé que l'essentiel en fait. C'était quand même une très mauvaise colonie de vacances.
À mon avis, c'est ça. Ou ils les ont peut-être posés après sur des photos.
C'est possible.
Tu vois. Ouais. Les petits salopards. Exactement.
Mais moi c'est avec le petit Spirou que j'ai commencé à dessiner des femmes. comme celle du petit Spirou. En fait, je trouvais ça absolument incroyable. Je trouvais qu'elles étaient géniales. C'est
ça,
c'est Mademoiselle
Chiffre.
Ah,
Mademoiselle Chiffre. Mademoiselle Chiffre avec son amant, quand même.
Cette taille-là,
c'est du coup pour le coup du point de vue de la masculinité hégémonique, y a aucun souci.
Ouais. Bah imagine l'inverse, enfin voilà, espèce de beau gosse incroyable avec une
Ashkenazi, c'est avec Kiva.
Ça m'intéressait le truc de faire la pornographie quand on est une femme ou genre de truc, parce que je crois que j'ai ça aussi, enfin les peurs de faire le jeu du système entre gros guillemets. Enfin, une femme qui fait du porno, c'est risqué, au sens, si je fais un truc, comme tout est une construction sociale, je vais forcément réviser des codes qu'on a créés pour nous soumettre, et du coup, c'est la merde. Je pense que c'est pareil, sûrement, si on veut faire un truc, comme tu as dit, je pense, je sais plus comment tu as formulé ça, mais que si tu fais une histoire homo, ça se trouve, les homos aimeraient pas, ou ça donnerait une mauvaise image des.
Oui, mais je dirais qu'au bout d'un moment, j'en ai rien à battre. Voilà.
Mais c'est que je pense
que
c'est compliqué de se.
Soit on se limite au bout d'un moment en se disant je veux tellement être politiquement correct, je ne veux jamais froisser personne. Voilà. Dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Voilà. Je pense que Pasolini n'a jamais été très correct d'arriver avec l'image de personne, par exemple, mais il a fait une œuvre magnifique. Donc, si on veut essayer à son propre niveau de faire un truc, à un moment donné, il faut essayer justement de se débarrasser au maximum, et justement, c'est là où je dis se faire confiance à soi-même. Parce que quand on écrit, si on écrit bien et si on écrit justement, on ne peut pas se mentir au bout d'un moment. On fait quelque chose qui nous ressemble. Donc si on essaye de ne pas être un connard dans la vie sociale, il est probable que ça se verra à terme dans ce qu'on écrit aussi.
Ouais, après, tu as aussi une différence quand même entre faire le jeu du système, soit complètement inconsciemment, comme la plupart des auteurs de BD qui placent des clichés parce qu'ils ont l'habitude d'en voir, aussi faire le jeu du système par ambition commerciale, donc typiquement la pratique des produits d'appel féminins. Et tu as une autre chose qui est, je pense, on est d'accord là-dessus, c'est de prendre le risque de faire le jeu du système en étant authentique et en étant déjà sensibilisé. C'est-à-dire qu'on sait quand même à quoi on s'expose, on sait quand même ce qu'on risque de faire et on a éventuellement un discours dessus, quoi.
Et on peut aussi, je dirais, utiliser ces codes pour les détourner.
Oui.
Pour les faire tourner, je dirais, et les interroger en même temps.
Voilà. Je tirais pas le discours inversé, c'était bon. Ouais, après, je trouve que. Je crois que je ne sais pas si je suis d'accord, parce que je sais pas. Parce que je trouve qu'on a une. En tant qu'auteur, ou en tant que ton, on a une forte responsabilité sociale aussi.
Oui.
Et que du coup, il faut toujours quand même penser. Ça dépend qui on veut froisser. Parce qu'il y a un truc d'être sincère, mais je pense aussi que c'est.
Oui, mais être sincère et analytique, c'est-à-dire on peut à la fois, il y a toujours, moi dans l'écriture, il y a deux moments, il y a le moment du jet en fait, où il y a des idées qui sortent, etc. Et après, une fois qu'on a cette masse informe sur la table, on commence effectivement à essayer de lui créer un ordre, et c'est le moment où on s'interroge en disant ah oui, mais attends, là, finalement ça j'ai pas envie. Et c'est plutôt de l'intuition qu'autre chose, se dire non, mais j'ai. Ça risque de donner un sens, sans parler de message, mais le sens profond de ce que je raconte, j'assume pas. Ça, c'est autre chose. Entre le sens et les intentions, enfin voilà, c'est pas parler de message, c'est parler de sens profond, en fait. C'est complètement deux choses pour moi.
Mmh. Les histoires, elles proposeront toujours un point de vue sur quelque chose.
Ouais.
Il faut que tu sois raccord avec, mais tu pourras pas avoir un point de vue qui...
Message, ouais. Mmh. Je suis d'accord qu'on puisse s'en foutre du message, enfin, pas avoir de message où... Ou se dire tant pis, chacun y trouve, mais le sens, il faut être conscient et faire gaffe. Hein,
tout à fait, ouais.
C'est pour ça que j'ai des jeux du système. Enfin, je pense qu'il faut.
Comme il y a toute, je dirais, toute une école, entre guillemets, du scénario que je dirais post-bessonienne, qui consiste à coller des stéréotypes les uns à côté des autres, juste parce que c'est cool, et les flics, ils sont comme ci, les machins, ils sont comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, on regarde, mais c'est terrifiant, parce que ça fait juste circuler du stéréotype. Et il y en a beaucoup en bande dessinée qui travaillent comme ça. Et ils balancent du stéréotype à la page, avec des bonnes blagues, normalement. Et à la fin, il y a des trucs, on est là en disant, mais c'est pas possible, on peut pas, c'est pas cautionnable, quoi, cette histoire. Parce que le type, c'est enfin, la personne qui a écrit ça, c'est pas du tout interrogée sur le sens profond. Elle a juste essayé de faire un truc cool. Mais au final, non, c'est pas cool, c'est juste.
C'est du crépi, voilà. Quoi.
T'as
pas la maison dessous, quoi.
Non.
Moi, j'ai eu un truc comme ça une fois. On m'avait proposé de participer à une série du style, vous voyez un peu tout ce qui est sorti, genre les blondes et tout ça. Donc, dans le même genre, il y a eu les socialos. Et on m'avait proposé de participer à ce truc-là. Donc, sur le coup, j'avais besoin d'argent. C'était relativement bien payé. J'ai dit, ok. Ça va venir maintenant. J'ai dit, ok, envoyez-moi le scénar. Et ils m'ont dit, le dessinateur nous a fait une planche et ensuite il nous a lâché. Donc, on a besoin d'un autre dessinateur. J'ai dit ok, et donc j'ai vu la première planche, et il y avait, donc c'était sur Royal, il y avait à la fois une blague sexiste, une blague homophobe, une blague raciste.
Combo.
Enfin, vraiment, en une planche, il y avait tout. Et tous les clichés possibles. Et en plus, c'était moche. Enfin, vraiment, il y avait la totale. Et donc, j'aurais dit, bah...
Et c'était financé par un groupe de droite français.
Voilà.
C'est sorti, ça? Ça donnait quelque
chose? Écoute, je sais pas, mais j'espère que non.
C'est possible, hein. Il y a eu tous les dérivés possibles.
Ouais. Non, non, c'était vraiment terrible, quoi. C'était royal chez le coiffeur homo, évidemment... Royal en pétasse superficielle et qui se... Enfin, je sais plus, il y avait une histoire sur un chauffeur noir. Enfin, bon, tout y était, quoi.
Et un comptable juif.
Il devait être à la page suivante, celle que je devais faire.
Et en plus, est-ce que c'est pas déjà, finalement, refuser l'invisibilité de certaines catégories, les homosexuels, les femmes aussi, est-ce que c'est pas déjà aussi faire quelque chose... Enfin, peut-être que ça vaut le coup de prendre le risque, à partir du moment où on sait qu'on veut faire les choses à partir de ce point de vue neuf, ça a déjà une portée politique en soi.
Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais.
C'est vrai que tu disais, toi, t'as des pornographies vulgaires, justement, il y a quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est quand même de les représenter jusqu'à maintenant.
Oui. Enfin, il y en a, il y a, mais c'est en fait, enfin, moi je parle plutôt de BD pornographique littéraire, en fait. Oui. C'est-à-dire, voilà.
Genre à la Manara.
Pas non, Manara, je suis pas fan. Non, mais justement, l'équivalent voilà, d'un empire d'essence ou des choses comme ça, en fait, de dire, voilà, essayer de faire un truc qui soit pas purement genre ça baise. Parce que ça existe, il y en a, il y a des fanzines, il y a plein de trucs où c'est essentiellement bah, du cul. Mais avec un scénario derrière, avec une réflexion sur la sexualité, sur la pulsion, sur tout ce qu'on veut. Après, c'est ambitieux, mais je sais pas si j'arriverai à le faire, on verra. Et donc, excuse-moi, je me souviens de ta question.
Y représenter
Oui. C'est pas vraiment. Enfin, en bande dessinée, moi, je parlerai pas du sens de l'y représenter, mais plutôt de l'y raconter, en fait, que de l'y représenter. Mm-hmm. Parce que je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de représentations. Quand tu, enfin, dans le milieu homosexuel, du dessin homo, porno, érotique, machin, il y en a plein, quoi. C'est pas ce qui manque. T'en as même sur des affiches pour des soirées mousse. Voilà, mais. Et d'ailleurs, ça, des fois, c'est très stéréotypé aussi, quoi. C'est plutôt du Tom of Finland, des mecs super baraqués avec des grosses bites. Donc, voilà, après, mais jouer sur d'autres codes, sur d'autres pulsions, c'est ce qui m'intéresse. Jouer, parler aussi de. Enfin, notamment dans ce projet-là, il y a quelque chose sur le côté social, en fait. C'est-à-dire le mec un peu plus âgé, mais qui a du fric, avec le mec qui vient d'un milieu peut-être un peu plus défavorisé et qui a un peu moins de fric. Enfin, voilà, ces choses-là, en fait, qui sont souvent une espèce d'équation non dite dans certaines relations. Et pas spécialement dans le monde homosexuel, ça existe aussi dans le monde hétérosexuel, bien sûr.
T'as pas l'impression que Ralph Koenig fait un peu ça?
Ah si, mais non, Ralph Koenig fait autre chose. Lui, c'est pas du porno.
Non, c'est...
C'est pas du porno, c'est au-delà de ça. Et ce qui est génial, d'ailleurs, c'est que Ralph Koenig est l'auteur de bande dessinée le plus célèbre de son pays. C'est une superstar. Bah oui, tout à fait. Pendant des années, c'était le seul.
C'est pas un très bon auteur.
C'est un très grand auteur.
C'est...
Il a fait Les Nouveaux Mecs, Iago, plein de trucs. Il a été nommé Angoulême, enfin voilà.
Ah, ça doit être ça, non, Dave Cooper. Ouais.
Ah oui, Ripple Cooper. Donc ça, c'était celui dont je parlais, Ripple, qui est un chef-d'œuvre absolu que je vous conseille.
Donc les mauvaises langues disent qu'il a tout pompé à Bretécher en général.
Ah oui, Ralph Koenig.
Est-ce qu'il y a une couverture, tu vois?
Ouais, face en allemand, là.
Allez, un peu d'allemand. Go to space! Je ne parle pas allemand.
Et c'est extrêmement drôle, c'est vraiment génial.
Non. Voilà. Donc,
Mais voilà, c'est pas pour moi. Le centre du travail de Ralph Koenig n'est pas. D'ailleurs, justement, un des meilleurs bouquins de bande dessinée jamais écrit autour de Shakespeare l'a été par Ralph Koenig. Justement, Iago, qui est une espèce de dommage parodique à l'œuvre de Shakespeare, qui est extrêmement drôle.
Je connais pas ça, tiens. Ah, j'irai voir. Ok.
Et peut-être pas. Je crois que tu as ton train à 18h04.
Je crois, je ne sais pas, pas te dire.
Non,
mais
ça va. Enfin, au final, en vous intéressant à ces questions, vous pouvez voir que vous avez vraiment une approche politique et quasi militante.
Je dirais qu'on est en train de devenir. Enfin, moi, j'étais pas spécialement militant. Je faisais mon petit truc dans mon coin. Je pense que ce qui s'est passé récemment a
verrouillé le truc.
Comme si
le boulot avait pas été fini en fait.
Mais le boulot, il est toujours à faire, je pense.
Non.
C'est ça le truc.
Ouais. Moi, je sais que le boulot qui a été fait.
C'est toujours à faire. C'est toujours à refaire en fait.
Étant sans pas partie d'aucune minorité, parce que je suis un mâle blanc hétéro, un peu riche. Enfin, moi, j'ai tout un peu rond. Mais enfin, c'est même quoi. Enfin, tout.
T'es rouge, du coup, jamais.
Non, j'ai rien. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est bon, les hommes, ça va. Non, je savais pas qu'il ne peut pas se marier, même. Et puis, bah, les femmes, enfin, c'est pas, elles sont heureuses. Et du coup,
en grandissant,
il y a encore du chemin. Le plus dur est fait, on ne l'applique pas, les homosexuels en France.
Pas en France.
Ouais. On a le droit de le faire, et quand c'est fait, c'est mal vu.
C'est mal vu.
Je me disais, voilà, le combat, c'est gagné. Maintenant, on trouve qu'il y a des futilités, et qu'en fait, ces futilités ne sont pas des futilités, mais sont en fait les bases qui
non,
sont
arrivées.
Ah, oui, la loi protège, mais ne donne pas de droit, etc. Et du coup, il y a eu les trucs dernièrement, je pense, ont réveillé pas mal de gens. Un terreau qui était prêt à flamber, qui se réveille, et du coup, c'est méchant aussi. Du coup, c'est
gênant. Au-delà de la loi, il y a aussi un gros travail à faire sur les mentalités.
Bah, complètement, ouais.
Et qu'il fallait continuer à.
Mais le côté de la bataille est gagnée, c'est un truc d'américain, ça. C'est un côté de film où à la fin il y a un happy end. La bataille elle est permanente. Il y a qu'à voir en Espagne, effectivement, sur les
lois. La bataille n'est pas gagnée. Il faut rappeler quand même que la procréation médicalement assistée n'a pas été votée, donc ils ont gagné. Parce qu'en fait, justement, c'était peut-être leur but.
C'était ça
qu'ils voulaient. Et justement, ils ont gagné là-dessus. Actuellement, du coup, le gouvernement est frileux et le sera probablement dans les 10 prochaines années, même s'il reste au pouvoir. Et c'est clair que c'est pas la droite qui va aller monter au créneau là-dessus. Et il y a toute cette espèce de machin, je sais pas même quel mot de l'utiliser, débile, autour du genre, qui est devenu une espèce de drapeau sur lequel on crache. Alors que, quand même, vous êtes bien placé pour le savoir, le genre n'est qu'un outil. C'est comme si... Un outil intellectuel, c'est comme si on disait la théorie de la démographie.
Ah,
c'est exactement la même chose. Effectivement, la démographie, ça n'existe pas. Mais c'est un ensemble de données qu'on collecte pour étudier quelque chose. Le genre, c'est la même chose.
Ils veulent enseigner ça dans nos écoles.
On peut être d'accord ou pas avec le résultat de l'analyse, mais là on est en train d'essayer de casser toute l'analyse en disant mais non, mais c'est biologique, les femmes elles naissent avec des jupes, enfin voilà, donc on arrive quand même à un point d'absurdité, donc comme on en parlait tout à l'heure. Et il faut pas oublier que les groupes catholiques ou réac, etc., ont déjà fait le même coup avec Darwin il y a un siècle, que Galilée a été réhabilité de façon extrêmement récente sous Jean-Paul II. On a enfin reconnu officiellement au Vatican que la Terre tournait autour du Soleil. Donc voilà, ces groupes-là ont déjà un grand problème avec la science. Et il faut le rappeler, on se fout de la gueule des créationnistes aux États-Unis, mais on n'en est pas si loin, malheureusement, chez ces gens-là. Bienvenue.
Oui, puis... Enfin... Lors de cette soirée au ministère des droits des femmes, justement, il y avait plusieurs anciennes ministres des droits des femmes qui étaient présentes. Et l'égalité en France aujourd'hui, en droit, homme-femme, elle existe. En droit, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a tous les décrets, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, il n'y a aucun souci au niveau légal. Mais le problème, c'est qu'à un moment, une loi, pour exister, elle doit être précédée, en fait, d'une application, d'une conscience. Ouais, c'est ça. Donc, oui. Non. Le plus important, après, c'est de trouver les moyens de faire bouger, là.
Il ne faut pas oublier que, par exemple, en France, on a une particularité grammaticale qui fait que s'il y a 1000 femmes dans l'assistance et un homme, on dira « il ».
J'ai une remarque, en fait, le truc de la loi est passé, ça m'embête un peu, parce que c'est un peu comme dire « on a gagné ». Du coup, de dire « on a gagné sur le plan de la loi, donc du coup, changeons les mentalités ». Et du coup, c'est toujours un peu de se dire « bon, bah, du coup, la loi, on ne touche pas par la PMA ». Alors que je pense que le diable se cache un peu dans les détails. Il y a un truc qui m'a toujours perturbé, c'est récemment que j'ai mis le doigt dessus, c'est il y a quelques années au lycée, ça me perturbait vraiment parce que j'étais déjà un jeune homme chétif, pas vraiment spécialement masculin, pas spécialement gay, et il y avait un barème différent en sport selon qu'on était des garçons ou des filles.
D'accord.
Et ça m'avait toujours perturbé parce que du coup, moi j'étais en position dominée, parce que j'étais parmi les, ceux qui sont censés avoir des hautes performances sportives, mais du coup qui ne les atteignaient pas. Mmh. Du coup, j'étais jaloux des filles qui, elles, on leur demandait beaucoup moins.
Après, ouais, c'est un petit peu différent. Enfin, je pense que c'est une problématique un tout petit peu différente parce que là, on joue sur des paramètres biologiques. De fait, la majeure partie des filles.
Qui sont de plus en plus critiquées, justement, le fait que les femmes soient moins fortes biologiquement que les hommes est précisément un argument des misogynes, enfin des sexistes, et qui, est vrai, qui me semble de plus en plus critiqué. Mmh. Et enfin, ce que je mets en valeur, c'est que ce barème-là, il est institutionnel.
Oui, mais ouais, enfin, je sais pas, mais de fait, il y a tout un débat à faire. Moi, je suis absolument pas spécialiste, je suis absolument pas médecin, biologiste ou quoi. De fait, dans la plupart des disciplines, les disciplines qui impliquent une grande force musculaire ou des choses comme ça, il est absolument nécessaire que, enfin, moi, j'y pense en fait dans ma pratique des arts martiaux. Je fais du Krav Maga, et de fait, je constate à entraînement égal, voire à entraînement supérieur pour les filles, les disparités des performances physiques qui demeurent. C'est-à-dire qu'il y a des exercices que je ne peux pas faire, même avec un entraînement maximal. Il y en a que je ne peux pas faire, simplement. Parce que mes bras ne peuvent pas porter mon poids, par exemple. C'est des trucs, j'ai beau m'entraîner, j'ai beau faire des pompes, hein, ça ne change rien. Et donc, il est absolument nécessaire qu'il n'y ait pas le même barème, pour, que notamment les passages d'examen se passent par gabarit. Et je sais que si je me retrouvais face aux gabarits plus élevés, qui donc sont des hommes, hein, chez nous, en tout cas, les passages de grade ne sont pas... Par sexe, mais par gabarit. Or, les petits gabarits sont des femmes. Alors, il y a un petit asiatique avec nous.
Moi, ce qui est marrant, c'est que ces barèmes-là, ils sont imposés aux enfants.
Mmh. Oui.
Et donc, justement, les études...
Ça devrait peut-être plutôt être par poids, dans ce cas-là.
Aux enfants, ça fait vraiment tout. Et puis, les filles, attention, vous préparez toute votre vie, vous serez plus faible que les hommes.
Ça, oui.
Sans se dire, au fait, si jusqu'à 15 ans, on va faire les mêmes barèmes, et puis on va voir... Si finalement ça
ouais.
Pas.
Ouais. Et puis
c'est aussi, pour avoir été également une crevette de 15 ans qui pesait 50 kilos pour 1m80, c'est vrai que c'est genre, mais t'es pas un mec, tu peux pas être un mec. Tu vois, si t'as pas des muscles, si tu développes pas de la puissance musculaire, t'es pas un mec. Il y a vraiment ce côté-là en fait, alors que voilà, il y a différents types de corps, il y a différents types de morphologie. Moi j'aurais pu faire 15 heures de sport par jour, ça m'aurait pas changé le fait que j'aurais continué à peser 50 kilos. Voilà, donc, et du coup, on essaye de formater sur une image idéale de l'homme ou de la femme, qui est, voilà, le mec, ça doit être Johnny Westmuller, justement, ou le truc machin, tu vois. Et,
moi, je crois pas au sport.
Ouais.
Donc biologiquement, effectivement, je crois qu'il y a une réalité biologique entre les hommes et les femmes, mais aussi en termes de fibres musculaires ou ce genre de choses.
Je suis d'accord.
Et ce que tu dis, j'ai pas
envie de toi, là, si on se bat, tu me défonces la gueule.
En termes d'évaluation, pour un bac.
Bien sûr, mais je parle plutôt de, comment dire, du côté, enfin moi c'est des souvenirs aussi que tu as peut-être vécu, d'avoir un prof de sport en face de toi, alors qu'effectivement, tu vois, tu as des, enfin moi j'avais une morphologie de garçon limite anorexique, sans l'être vraiment à l'époque en plus, et effectivement j'avais pas de bras. Enfin, autant qu'une fille, mais j'avais pas de bras, et d'avoir un prof de sport disant, mais... t'es pas foutu de soulever ton poids, mais t'es pas un mec, t'es une fillette. Et c'est ce discours-là, en fait, moi, que j'interroge, plutôt. C'est ce discours de prof à l'ancienne, d'une école catholique, je tiens à le rappeler, qui était là, en fait, avec un côté, voilà, si t'es pas capable de faire ça, t'es pas un homme, en fait. Et là, effectivement, il y a un véritable problème quand on est dans un système éducatif.
Je m'en trouvais à faire des barres parallèles qui sont des barres géométriques.
Oui, oui.
Je pense que c'est, là, c'est
vraiment
en termes de genre que...
Sans doute, oui. Bah après, mais il y a quand même des attentes et des stéréotypes. Moi, je parle plutôt des stéréotypes du discours, en fait. Voilà, de
ou
dire...
Ou des activités elles-mêmes,
faut
d'ailleurs.
Faut qu'on y aille. On va vous faire le train.
Bah, enfin,
on peut peut-être finir sur ce que vous avez...
Ouais.
Vous avez juste une dernière chose à dire que vous voulez absolument dire ou...
Non,
merci. Merci de nous avoir accueillis.
Merci.